Bonsoir, nous sommes le lundi 20 février, les 18h01 sur Radio Campus Paris en FM et sur le web. Et c'est l'heure de la relève et des virgules.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, et c'est reparti comme tous les 15 jours donc pour 30 minutes de découverte avec un jeune talent. Aujourd'hui, on va parler d'une gourou, d'images, de souvenirs. Mon invité est bédéaste. Bonsoir Romane Granger.
Bonsoir.
Vous êtes l'autrice de Bettica Batenica aux éditions Réalistes et c'est votre premier livre, je vais me répéter. Vous avez fait le dessin, le scénario, les dialogues, la couleur aussi, c'est tout? Vous avez tout fait?
J'ai tout fait,
oui. Vous avez tout fait. Personne ne vous a aidé?
Non, bon, j'ai eu après des retours de mes éditeurs et de mes amis sur l'histoire, mais sinon ouais, j'ai tout fait.
Alors cette BD, ce roman graphique commence comme une enquête policière. Par une enquête policière, on découvre Anna et Bram. Ils partent enquêter suite à des disparitions mystérieuses à l'Institut du Razed. Vous vous souvenez de comment est né ce point de départ?
Oui, alors le point de départ de l'histoire, c'est tout part de la formule magique en fait qui est utilisée dans l'Institut du Razed. Et c'est vraiment, ça part d'une anecdote personnelle, parce que moi, depuis que je suis petite, ça va être un peu bizarre, attention, mais depuis que je suis petite, j'imagine que des gens, en fait, voient le film de ma vie à travers mes yeux, et j'ai pas envie de leur montrer tout ce qui se passe dans ma vie, et donc j'ai envie de faire des cuts. Et pour faire ces cuts, j'utilise une formule magique qui est RAZ, RAZ, RAZ.
RAZ comme le terme anglais RAZ, quand
c'est
on
ça,
avec
ouais.
Un ordinateur, quand comme on supprime un disque dur.
Ouais, comme erased et comme retour
oui,
à zéro.
Vous parlez mieux anglais que moi. Et quand vous faites erased, les souvenirs disparaissent chez vous ou c'est juste les gens qui ne peuvent plus les voir?
Dans mon principe de forme magique, c'est plutôt les gens ne peuvent plus les voir.
Vous les gardez quand même?
Bah oui, malheureusement.
Alors là, dans le livre, les gens eux-mêmes ne peuvent plus accéder à leurs souvenirs. Parce que c'est ça l'idée, c'est que dans cet institut donc, du Razed, et maintenant on sait pourquoi ça s'appelle le Razed, les gens arrivent et on efface certains de leurs souvenirs s'ils le veulent.
C'est ça, ouais. C'est eux-mêmes qui effacent leurs souvenirs grâce à cette forme magique. Mais il y a quand même un point de réversibilité, puisque les souvenirs qu'ils décident d'effacer se transforment sous forme de petites perles qu'ils peuvent ensuite décider de ravaler pour se rappeler de leurs souvenirs.
Est-ce qu'au moment où vous commencez donc l'histoire sur ce souvenir personnel, quand vous venez me le dire, vous savez déjà où vous allez aller?
Pas du tout. En fait, j'ai choisi d'attaquer le bouquin sous la forme d'une enquête policière. Et ce qui est un peu drôle, c'est que moi-même, j'étais en train d'enquêter sur qu'est-ce que je voulais vraiment raconter. Et donc le livre commence sur cette image d'un coffre perdu dans les montagnes. Je savais qu'à la fin, j'allais ouvrir le coffre, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans.
Et pourquoi la montagne? Vous savez ça? Parce qu'on voit souvent des montagnes en bande dessinée. Je pense à Lucas Harari, son premier album par exemple, où il y a aussi un coffre, plus ou moins, cet hôtel, enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais cet hôtel dans les montagnes, c'est une sorte de coffre... Parce que c'est graphique à dessiner, c'est intéressant à dessiner
oui.
Les montagnes.
Oui, c'est vrai que j'avais très envie de dessiner des montagnes, donc c'était ça le point de départ. Et puis aussi, je pense que c'est des paysages qui invitent au mystère et à l'imaginaire.
Alors, vous construisez, vous dites que vous enquêtiez en même temps que vous écriviez, enfin, d'ailleurs, est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on dessine, est-ce qu'on fait les deux en même temps?
Je sais pas, je pense que chacun a sa technique pour écrire ses histoires. Moi, c'était assez chaotique, je dois dire.
Ça se voit pas quand on voit le résultat, parce que le résultat est très fluide.
Bah écoutez, merci.
J'ai beaucoup travaillé, peut-être.
Ouais, en fait, il y a eu beaucoup de ping-pong entre juste prendre des notes sur qu'est-ce que je cherchais vraiment à raconter et faire beaucoup de storyboard, en fait.
Alors je reviens en arrière à ma question d'avant, parce que du coup, je me suis auto-zappé. C'est un peu une de mes spécialités. Vous dessiniez, vous écriviez, comment vous avanciez dans l'histoire?
J'ai commencé par dessiner directement. Et ensuite, quand j'arrivais à des points de blocage, notamment sur la deuxième partie du livre qui est plus introspective, là, j'ai réécrit et j'écrivais. C'était plus un espèce de journal intime que je tenais que vraiment une écriture de scénario classique.
Et en même temps, vous travaillez?
Et en même temps, je travaillais, oui.
Il faut le dire, même. Qui est Bettica Batenica, qui donne son titre à l'album, qui dirige le fameux Institut du Razed Cook? Qui est cette femme?
Je pense que c'est... J'ai mis un peu de moi dedans, puisque du coup, c'est elle qui a créé cette formule magique. Bon, après, ce n'est pas une autobiographie, mais, euh, Voilà, et après, en fait, ça, c'est un peu mystique comme histoire, mais pour...
On aime ça ici, hein, il n'y a pas de problème, allez-y.
Mais du coup, pour la petite histoire, pour son nom, qui est un peu étrange, Bettica Batenica, en fait, j'ai rêvé une nuit d'une femme qui était une espèce de sorcière et qui s'appelait Bettica Batenica. Et en me réveillant, j'avais juste ce nom en tête et je me suis dit, oula, c'est très étrange comme nom, je vais appeler mon personnage comme ça.
Et alors, c'était elle, le gourou, Il y a quelque chose d'intéressant à créer un personnage de femme gourou, parce que c'est souvent des hommes, les gourous, ce que j'ai réalisé. Je n'avais jamais pensé à ça, mais encore un domaine qui n'est pas ouvert à la parité. Le gourou est sous de secte et souvent un homme.
Oui, c'est vrai. Moi, je ne me suis pas posé la question pourquoi une femme gourou. Je pense que comme moi, je suis une femme, j'ai plutôt tendance à dessiner des personnages féminins. Voilà.
Ça va être l'instant Léa Salamé, mais il y avait un plaisir à dessiner une femme puissante.
Oui, complètement. C'est une femme puissante et... vénéneuse et en même temps très mélancolique. C'est un personnage hyper intéressant à explorer.
Vous intéressez-vous au mouvement sectaire par ailleurs ?
J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube dessus, mais après je suis pas une spécialiste.
Mais c'est quoi ? C'est le côté costume ? Parce que là encore, on imagine peut-être qu'il y a dessiné, il y a quelque chose d'amusant, je sais pas, mais d'intéressant en tout cas, les costumes, les rituels, les décors.
Ouais, tout à fait. Et quand j'ai réfléchi à mon histoire, tout comme je disais tout à l'heure est découlé de cette formule magique, et je me suis dit jusqu'à quel point quelqu'un qui créait cette formule pourrait aller pour la répandre partout dans le monde. Et c'est comme de là qu'est venue cette idée de la faire en gourou de secte.
Oui, parce que le point de départ de l'enquête, c'est qu'il y a des personnes qui, avant que des souvenirs disparaissent, il y a des personnes qui disparaissent. Et les deux policiers recherchent ces personnes qu'on soupçonne être dans cette secte. Enfin, cet endroit un peu bizarre.
Oui, voilà, et qu'on retrouve après, au milieu du livre, dans un tout autre état.
Alors, comme on est dans un BD, un roman graphique, comme vous voulez, on va aussi parler de votre dessin. Est-ce que, alors, les livres de la collection... voilà, le nom m'échappe, les réalistes, sont des petits formats, eux disent des briques, mais c'est ça, des briques. Hein. Oui. C'est moi qui disais des pavés tout à l'heure en plaisantant avant qu'on commence. Donc c'est un format de briques. Est-ce que la manière dont vous avez dessiné a été contrainte parce que vous aviez un petit format et que vous ne vouliez pas trop faire de détails? Ou est-ce que vous dessinez toujours comme ça, avec des fonds assez monocolores? Ouais.
Non, c'est vrai que le format assez petit a pas mal cadré mon dessin. Parce que du coup, je voulais pas que ça soit trop chargé et que ça paraisse réduit. Donc j'ai beaucoup épuré. Et en même temps,
il y a des passages qui sont presque surréalistes. Hein.
Ah oui.
Je ne veux pas dire que c'est juste que des aplats de couleurs. Et avec très peu de choses, vous arrivez à créer des univers.
Ouais, en fait, je voulais que chaque page soit hyper impactante, du coup, avec ses aplats et toujours les mêmes motifs qui reviennent, etc. etc.
Vous jouez beaucoup avec le geste qui est très radiophonique, les lignes droites et les courbes.
Oui.
C'est pas forcément volontaire.
Non, je pense que c'est comme ça que je dessine. Quoi. Mais après, c'est vrai qu'il y a le motif du rond qui revient beaucoup dans le livre.
Mais d'ailleurs, sur la couverture, il y a plein de petits ronds.
Oui, voilà, c'est la perle, c'est le trou et c'est le cycle.
Votre livre est aussi très rouge et bleu. Vous n'aimez pas le jaune ?
Non, j'aime pas trop.
Il y a deux, trois passages en vert, mais vous aimez pas de dessiner avec du jaune ?
Non, pas du tout. J'aime pas du tout cette couleur. Et pareil pour la petite anecdote, en fait, le orange qui est vachement présent dans la BD, en fait, symbolise le souvenir. Donc plus on avance dans le livre, plus ça devient orange.
Et est-ce que c'est quelque chose quand on... Je me suis demandé si quand on fait une BD, on est comme un écrivain, est-ce que c'est comme un jeu littéraire, quoi ? Vous êtes donné cette contrainte-là en plus, parce que ça vous empêche de représenter certaines choses finalement, de vous interdire une couleur.
En fait, c'était plutôt un bon cadre, parce qu'il y a déjà tellement de choses à réfléchir quand on fait une BD, l'histoire, le dessin,
le découpage.
La narration, le découpage, que me limiter à une palette de couleurs restreintes, ça m'enlevait un...
Ah oui, vous, c'était pas une contrainte, c'était une libération.
C'était vraiment une libération. Et puis, ça me permettait de faire des jeux aussi, parce que du coup, parfois, les couleurs des cheveux vont changer d'une case à l'autre. Donc, ça me permettait à chaque double page de réinventer un peu. C'était intéressant.
Ça vous amusait ?
Ouais, ça m'a beaucoup...
Et par ailleurs, vous n'aimez pas le jaune. On le saura. Si on voit du jaune, c'est que c'est pas de vous.
Voilà.
Alors, on compare dans les quelques critiques que j'ai lues, dans le dossier de presse, on vous compare au Vertigo d'Hitchcock. C'est une référence que vous prenez ?
Pas du tout. C'est vrai que quand j'ai vu ça, ça m'a étonnée. J'y avais pas pensé, mais ça paraît logique. J'ai vu comparer aussi, enfin, on comparait les deux détectives au personnage de X-Files. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout pensé. Et en alors, fait, ça fait sens.
Moi, j'ai une autre référence. Mulholland Drive, Lynch.
Ouais, on m'en a parlé, je crois, bah, il y a une ou deux semaines.
Non, je pareil, je ne l'avais pas.
Je l'avais pas, j'y avais pas pensé. Et en fait, ça correspond complètement.
C'est des films que vous aimez. C'est un univers qui vous a nourri.
Ouais,
tous
ouais.
Ces Hitchcock, Lynch, X-Files aussi, la pop culture.
Ouais, complètement. Et c'est des références que, on va dire, que j'ingère. Dont je me souviens, que j'oublie et qui ressortent après dans mon travail.
Et celle, donc du coup, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'auteurs, pas forcément de BD, mais de cinéma dont vous vous revendiquez dans ce travail ?
Dans ce travail en particulier, non. Après, non, je ne crois pas.
Alors, vous disiez tout à l'heure au début que vous aviez enquêté, alors... Moi, il y a deux choses qui m'ont étonné dans votre livre. Enfin, il y en a plein d'autres, mais il y en a deux notamment. C'est qu'on découvre, des gens que je ne connaissais pas, les lotophages, mais aussi Mickey Mouse, comme des clins d'œil.
Ouais.
On va peut-être déjà dire qui sont les lotophages, je vous laisse faire.
Les lotophages, donc, c'est des personnages dans l'Odyssée d'Ulysse qui sont sur une île, si je me rappelle bien. Et en fait, ils ont ce pouvoir de manger des fleurs de lotus et d'effacer leurs souvenirs. Et je m'en suis rappelée en écrivant le bouquin. Et je me suis dit, bah, tiens, ça ferait une belle référence à caser. Et ensuite, pour Mickey Mouse, là, c'est un peu plus sombre. Parce qu'en fait, quand on voit le personnage diabolique à la fin du livre, on peut apercevoir sur son bras un tatouage de Mickey.
Et moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu avant.
Ouais, je pense que c'est un clin d'œil. Enfin, c'est quelque chose que j'ai fait en me disant, bon, les gens ne le verront peut-être pas forcément. Et c'est pour ça que le personnage de Bettica Batenica, en fait, qui choisit...
Ah, vous lit de vide, vous.
Bettica Batenica. et donc, le personnage de Bettica Batenica qui choisit d'oublier son passé, en fait, son passé revient sous des formes un peu cachées, notamment sous la forme du petit Mickey Mouse.
Mais ça vous amusait de mettre ces références-là, par exemple?
Oui, c'était très, très rigolo. J'ai essayé de dessiner des Mickey un peu moches sans le regarder. C'était vraiment beaucoup trop effrayant, donc j'ai pris la vraie image.
Oui, parce qu'il est un peu cauchemardesque, votre...
Oui, c'est le Mickey de Fantasia.
Le fameux Fantasia. On va parler maintenant de rappeler que la maison d'édition Les Réalistes a été créée par trois personnes, Charles Amelin, Cédric Manou et Hugo Bienvenu. Hugo Bienvenu était venu ici pour son livre Préférence Système. Et comme vous, son album était baigné, je trouve, d'une angoisse qui était celle de l'oubli, que vous semblez partager. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes rencontrés ou c'est juste un hasard que vous êtes retrouvés sur ce thème-là tous les deux ?
Oh, je pense que c'est un hasard. Après, c'est peut-être des questionnements qu'on a un peu à tout le monde, quoi. Enfin, tout le monde se pose la question de l'oubli. Est-ce que c'est bien d'oublier ? Est-ce que, enfin, ça serait pas mal parfois d'oublier aussi ?
Moi, ce qui m'a étonné, c'est que vous, comme lui, vous êtes très jeune et que vous soyez aussi obsédé par cette question. Je me disais que c'était une question plutôt de vieillard.
Ah oui.
Ou de quelqu'un de mon âge déjà, mais le vôtre, ça m'a étonné.
Je ne sais pas, en tout cas.
C'est quelque chose qui vous a toujours obsédé. Ben, la preuve, oui, puisque vous aviez inventé ce... Alors vous, c'est bizarre parce que vous voulez oublier. Vous voulez pouvoir oublier certaines choses, pouvoir cacher.
Oui, je pense que c'est vraiment un super pouvoir de pouvoir oublier toutes les choses honteuses qu'on a pu faire, une soirée un peu trop bourrée, ça serait merveilleux.
S'il n'y a que ça que vous avez fait, c'est pas très grave. ça s'assume assez facilement. Mais l'oubli, c'est quoi ? C'est aussi, maintenant, sur là, c'est la question Jacques Chancel, vous ne savez pas qui c'est, vous êtes trop jeune. C'est quoi ? C'est Dieu dans tout ça là ? C'est un animateur de France Inter des années 70, voire avant, et qu'on caricaturait en disant, parce qu'il posait souvent des questions très intello, et c'était « Et Dieu dans tout ça ?» Donc là, c'est ça la question, c'est l'oubli, c'est quoi ? C'est « Et Dieu dans tout ça ?» C'est l'angoisse de la mort ? C'est, je vous ai dit, hein, c'est l'instant Jacques Chancel.
L'oubli, c'est l'angoisse de la mort. Je sais pas, je
alors, dans le dossier de presse, on parle de Yankelevitch. Vous avez plutôt parlé de Yankelevitch et de ce qui vous a apporté.
Ouais, bah
cette réflexion sur finalement, oublier, pardonner, c'est accepter de ne plus être en lien aussi. C'est se libérer de quelque chose.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que du coup, le non-pardon, c'est peut-être... le seul lien qui va rester entre deux personnes qui ont un problème de pardon, quoi, et l'oubli permet de couper ce lien. Et est-ce qu'on a vraiment envie de couper ce dernier lien, même si c'est lié à des choses traumatisantes? Et c'était une question très compliquée, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse d'ailleurs. Et à laquelle, je pense, le personnage de Betty Kabatenika n'a pas la réponse non plus.
Elle n'avait pas lu Yankee peut-être. Mais là, dans le... Je reviens au livre. C'est qu'on peut oublier, mais on peut aussi récupérer cet oubli. C'est, ça, je trouve ça intéressant.
Ouais.
C'est qu'en général, on veut oublier, c'est ce qu'on veut refouler. Si on prend... On parle de psychanalyse, ce soir, on est très sérieux. Mais on sait que ça existe, le refouler les choses qu'on ne veut pas voir. Mais là, c'est qu'on pourrait les refouler, mais quand on veut pouvoir les récupérer.
Ouais, bah c'est tout le paradoxe du personnage de Betty Kabatenika, donc qui décide d'oublier, qui crée cette secte pour permettre à tout le monde d'oublier, mais en fait elle-même s'interdit d'oublier, et elle s'interdit d'oublier parce qu'elle ne peut pas pardonner en fait.
Vous trouvez ça terrible de pas pouvoir pardonner?
Ouais, c'est horrible.
Je sais pas.
Bah le pardon c'est le lâcher prise. Sans pardon, il y a pas de possibilité d'avancer dans sa vie quoi.
Très bien. Ah, on va écouter de la musique, mais on va attendre un petit peu. Et là, elle arrive tout de suite. On va écouter. Ah ben voilà. Voilà, c'était Au Trolado, un extrait de La Fraîchisse de Radio Campus Paris. Et c'est chanté par... Alors attention, parce que moi je n'ai pas fait espagnol première langue. Margarita Quebrada, Xenia et Myrina Gris.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
À mon avis, on doit dire Gris, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Gris. On est toujours avec Romane Granger, qui publie aux éditions réalistes Bettica Batenica. J'en profite pour citer... le livre d'un autre auteur qui paraît en même temps que vous, Valentin. Oh ben, voilà, bravo, il va être content. Valentin Giuli, et ça s'appelle Horizon Magnétique. Vous, avec cette bande dessinée, vous réalisez un rêve d'enfance ?
Oui, mais un rêve auquel je savais même pas, enfin, je savais même pas que j'avais ce rêve parce que j'avais jamais pensé à faire de la BD.
Vous l'aviez effacé, celui-là ?
Oui, je l'avais effacé. Et donc, j'ai ravalé la perle. Et en fait, oui, pour moi, la BD, c'était un monde complètement inaccessible. Je pensais qu'il fallait aller démarcher des dizaines et des dizaines de maisons d'édition. Et heureusement, c'est Hugo Bienvenu qui m'a proposé de faire ma première BD aux éditions réalistes. Et c'est vrai que...
Mais donc, il a vu vos dessins.
Il avait vu... Oui, en fait, on se suivait sur Instagram. On avait des amis en commun. Et du coup, il m'a proposé de faire cette BD. Je venais de passer mon diplôme aux arts décoratifs. Donc, c'était en 2019. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça.
Est-ce que vous avez toujours dessiné ? Oui, par contre, oui.
Oui, ça par contre, oui.
Et vous dessinez ? Oh, pardon.
Pardon ?
Mais tous les enfants dessinent.
Oui, c'est vrai.
Mais hier, j'ai envoyé une archive avec Salvatore Dalí qui disait « Je déteste les enfants et les dessins d'enfants ». je ne sais pas comment étaient les vôtres. Ils étaient jolis.
Oh, ils étaient... oui, c'était des dessins d'enfants, quoi.
Quand on aborde la bande dessinée, qu'est-ce qui fait qu'une histoire est intéressante à raconter par le dessin ? Est-ce que vous avez trouvé ça ? Il faut qu'elle provoque des images, hein, il faut qu'elle...
C'est une vaste question, ouais. Je pense que, en tout cas pour moi, c'est une histoire qui doit permettre de découvrir des choses sur soi-même, parce que c'est tellement long de faire une BD, là moi j'ai mis 2 ans, mais ça peut prendre encore plus. Il faut que ça soit vraiment une histoire qui nous tient à cœur et dont on ne va pas se lasser au bout de quelques mois, quoi.
Vous avez fait, comme vous venez de dire, l'ENSA, l'École nationale, nationale supérieure des arts décoratifs. Et avant, vous aviez fait l'École Olivier de Serres. Est-ce que vous vouliez faire quoi à l'époque ? Vous vouliez dessiner ?
Oui, je voulais dessiner. Je voulais raconter des histoires, peu importe sous quelle forme. Mais je m'étais plus orientée vers le cinéma d'animation. C'est mon métier actuel. Mais voilà, l'idée, ça avait toujours été de pouvoir créer des univers et raconter mes histoires.
Vous parlez de cinéma d'animation. Comment aujourd'hui on fait ? Parce qu'on a en tête les studios où il y a des dizaines de personnes qui font des dessins. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a des ordinateurs, ça marche plus comme ça. Comment vous faites ça aujourd'hui ?
On travaille essentiellement sur ordinateur quand même. Et moi, ma pratique, elle est plutôt en 2D, donc sur tablette graphique. Et après, dans le studio où je suis, il y a aussi beaucoup de films en 3D. Voilà.
Il y a par exemple des gens qui s'occupent... Est-ce qu'on a un découpage d'étages en dessin animé, quoi,
Avec
les gens qui font la couleur, les gens qui font les décors, toujours, il y a toujours ça ?
Ouais, il y a toujours ça. Après, ça dépend du type de projet. Si c'est des projets plutôt courts, en général, la même personne va faire plusieurs tâches. Mais oui, il y a toujours... On commence par l'animation rough, brouillon. Ensuite, une autre personne va faire l'animation clean, donc le dessin final, puis la colorisation et enfin les décors.
Est-ce que vous avez des auteurs de bande dessinée que vous aimez par-dessus tout ?
Moi, en fait, je ne lis pas énormément de BD.
C'est pas grave.
Mais je pourrais citer... j'aime beaucoup Paul Kirchner, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un auteur américain au trait plutôt traditionnel, qui se rapproche des Cloves, Charles Burns, etc. Et j'ai aussi découvert Kumsuk Gendry Kim, une autrice coréenne qui a fait un superbe album qui s'appelle L'Attente. C'est l'histoire d'une mère coréenne qui a dû fuir la Corée du Nord en laissant son enfant derrière elle et qui espère toute sa vie le retrouver. C'est très beau.
Très bien. J'ai noté hein, L'Attente. J'ai pas eu le temps de noter le nom de l'auteur, mais je vous redemanderai avant de partir. Ouais. Aujourd'hui, on a appris la... Alors, vous êtes peut-être un peu jeune, vous. On a appris la mort du créateur d'Albator. C'est quelqu'un qui compte pour vous ? Parce que j'ai l'impression que dans le monde du dessin animé, c'est une référence qui compte beaucoup.
Oui, j'ai vu ça tout à l'heure sur Instagram. Qui compte beaucoup, oui, c'est sûr que ça a baigné notre enfance, l'enfance de nos parents.
Nos grands-parents. Je suis très très vieux, merci.
Mais oui, oui, c'est les dessins animés de nos enfances respectives.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que ça a duré. C'est que on pourrait considérer que c'est ringard pour la génération d'après. J'ai l'impression que ces dessins animés-là, japonais, vieillissent beaucoup moins que d'autres.
Oui, c'est vrai. On y revient toujours.
Il y a quelque chose d'un peu atemporel.
Oui, ouais, complètement. Mais oui, mais le dessin est très beau. J'ai l'impression qu'on revient beaucoup à ce type de dessin plutôt... j'allais dire réaliste, pas vraiment, mais c'est toujours une source d'inspiration.
Tout à l'heure, vous disiez que que c'était un rêve que vous ignoriez ou qu'en tout cas vous n'arriviez pas à formuler. Est-ce que c'est lié quand même au fait, qu'on en parle, vu que c'est un milieu très masculin? On en a parlé récemment au moment avec la prise de conscience autour du Festival d'Angoulême depuis quelques années et encore cette année. Est-ce que le fait de ne pas avoir des autrices de BD comme référence, ça fait qu'il y a comme un manque de... J'emploie une expression que je déteste, mais de rôle modèle?
Oui, peut-être. Ouais, peut-être. Je pense aussi que c'est peut-être un manque de confiance en moi, tout simplement. J'ai très peur d'aller sonner aux portes des maisons d'édition.
Ah, c'est vraiment les maisons d'édition qui vous fait peur.
Ouais, c'est très intimidant.
mais je me suis demandé aussi si c'était pas aussi finalement une chance, parce que vous n'avez pas de modèle écrasant. Du coup, vous...
Oui, peut-être. Ouais. Bon, après, ça serait toujours mieux d'avoir des modèles.
Dans le rabat biographique, donc, il est écrit, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous travaillez dans l'industrie du dessin animé. Et quand on vous le dit, on se dit que ça ferait un formidable dessin animé. Vous y avez pensé en l'écrivant?
À la base, cette histoire, donc, puisque ça vient d'une anecdote personnelle, je l'avais en tête depuis un moment et je m'étais dit que ça serait un court-métrage, voire un long-métrage.
Un long-métrage.
Oui, il a peut-être un long-métrage. Et quand Hugo m'a proposé de faire une BD, j'ai quand même tout de suite pensé à cette histoire et je me suis dit, bon... Je vais quand même la faire en bande dessinée. Et qui sait si je ne suis pas lassée.
À chaque fois que j'ai posé cette question à Bélias, parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination, je me suis toujours pris un moment parce qu'ils disent qu'on n'écrit pas une BD comme on écrirait un dessin animé. Ouais. Qu'il y a des tunnels dans la BD qu'on ne pourrait pas faire et inversement.
Ouais. Bah,
qu'on a besoin de scènes d'action pour relancer l'intérêt.
Ouais. Bah, en fait, c'est ce que je m'en suis rendu compte pendant l'écriture, enfin pendant le storyboard, je pensais
non,
pouvoir...
Je me suis encore pris un banc, mais allez-y, pardon.
Non, mais en fait, au moment où j'ai décidé de raconter cette histoire sous la forme d'une BD, je suis devant ma page blanche, je commence à tracer des rectangles pour faire mon découpage, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout comme faire un storyboard de film, que c'était complètement différent, et j'avoue que j'ai eu un peu ce truc de la page blanche où je savais pas comment faire.
Vous n'avez pas dessiné sur ordinateur?
Pour le découpage, je fais tout en carnet de dessin. Je trouve ça plus facile de hiérarchiser ses idées comme ça. Ensuite, oui, le dessin final est fait à l'ordinateur. Mais c'est vrai que du coup, au moment de... Enfin, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme faire un film. Et donc, à ce moment-là, j'ai relu L'Art Invisible de Scott McCloud. Et ça m'a pas mal débloqué.
C'est un livre de référence? Je sais pas ce que c'est. C'est un livre de référence?
Ouais, c'est un livre en BD de quelqu'un qui explique c'est quoi l'art de la BD.
D'accord. Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait des gens qui voyaient tout ce que vous faites. Alors j'aimerais savoir si vous allez, en sortant d'ici, prononcer la formule ERAZ pour qu'ils ne voient surtout pas cette émission.
Oula,
parce que vous dites qu'il faut l'oublier pour toujours.
Ce qui est sûr, c'est que je ne vais jamais la réécouter et que chaque mot que je prononce, je l'ai oublié, je l'oublie une seconde après.
Bon, bah écoutez, pour les gens qui veulent vous découvrir, et moi je leur conseille d'y aller le 11 mars, vous êtes chez BDNet Bastille à Paris. On peut vous voir les 25 et 26 mars au Festival Central Vapeur de Strasbourg. Le 6 mai, ça nous projette un peu, mais peut-être que les trains rouleront d'ici là. Vous serez à Manfin, à Rennes, et le 3 juin à Mine de Rien, à Besançon. Vous savez déjà sur quoi sera votre prochain album ?
J'ai plusieurs idées en tête.
D'autres histoires d'enfance
ou... Peut-être encore aller chercher dans l'oubli, la mémoire. Peut-être faire une trilogie de la mémoire.
Ah, vous avez carrément une trilogie de la mémoire en cours. Bon. Mais écoutez, je suis désolé, il y a un podcast de cette émission, donc on pourra la réécouter pendant très, 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 très longtemps et vous forcer peut-être même à la réentendre. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Je rappelle Bettika Batenica, votre livre s'appelle... Non, on va vous appeler Romane Granger, votre livre s'appelle Bettika Batenica, pardon, et c'est publié aux éditions Réalistes. Merci beaucoup d'être venu ce soir.
Merci.
Voilà, c'était La Relève présentée par Christophe, réalisée par Alison et ses virgules magiques. Vous pourrez aussi retrouver donc l'émission et toutes les précédentes, ainsi que les podcasts sur le site de Radio Campus Paris.org. Rubrique La Relève, à 19h, vous retrouvez La Matinale, qui est présentée par quelqu'un ce soir, je ne sais pas qui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro de Numérix. Et en attendant, jusqu'à 18h55, c'est le programme musical de Radio Campus Paris. Bonne soirée.